Alors bonsoir à tous, merci d'être venus à cette présentation du livre de Gilbert Dain et Denis Dubourdieu, Autour d'une bouteille avec Denis Dubourdieu, l'œnologie dans tous ses états. Je vais commencer par dire un petit mot de la collection, en fait, puisque ce titre-là s'insère dans une série, c'est le 8e opuscule, qui est paru donc au mois de mai. Avril. On a déjà travaillé avec André Lurton, avec Anthony Barton, Christine Valette au Château Trolon-Mondeau, Florence et Daniel Catiard à Smith-Olafite, Philippe Raoux à la Winery et au Château d'Arsac, François Lévesque en tant que courtier en vin, ancien président du syndicat des courtiers, Hubert Deboire assez récemment avec le Château Angélus et donc Denis Dubourdieu. Alors l'idée de la série, en fait, elle est de rencontrer des grandes personnalités du vin. Alors dans un premier temps, on s'est centré sur Bordeaux pour des questions de facilité, tout simplement. On est en train de commencer à s'intéresser à d'autres régions viticoles qui nous paraissent non moins dénuées d'intérêt. Et donc l'idée de cette série, c'est qui nous a été apportée par Gilbert Dain ici présent. Elle est d'initier des conversations sur une durée assez longue. Alors ça, c'est ce qui est particulièrement intéressant, parce qu'en matière d'édition, on n'a pas souvent le luxe de pouvoir travailler dans la durée. À titre d'information, la première conversation du livre avec Denis Dubourdieu a commencé en août 2009, si je ne m'abuse. Donc pour une parution du livre 2 ans et demi plus tard. Donc ce qui permet vraiment un travail de fond. Et donc l'idée de cette série, ce sont donc bien des conversations que mène Gilbert Dain. Et là, je vais tout de suite lui passer la parole pour qu'il nous explique un peu le fonctionnement de tout ça. Et surtout, pourquoi Denis Dubourdieu ?
Ah ben écoute, merci. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Et puis, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui vont nous écouter par l'intermédiaire du podcast, puisque la librairie Mola permet comme ça de réécouter les conversations, et c'est très intéressant. Librairie Mola, puisque j'ai la parole et que j'ai l'occasion d'en parler, pour laquelle j'ai personnellement beaucoup d'attaches. J'y viens depuis que je suis tout petit. Et je trouve qu'il y a un grand intérêt, elle nous permet, je ne sais pas si nous en avons toujours conscience ici à Bordeaux, de rencontrer des auteurs avec une facilité dans cette salle assez déconcertante, et je crois que c'est assez exceptionnel. Il m'arrive d'ailleurs, une petite anecdote, quand je suis en bas, j'y viens depuis l'enfance, je me suis surpris en train d'arranger un petit peu comme ça les choses, de ramasser un livre. Alors quelques-uns diront que je soigne peut-être ma névrose, mais je ne crois pas. Je crois que c'est simplement un attachement qui s'exprime comme ça. En tous les cas, merci. Merci à cette librairie d'exister. Alors cette collection... Bien, moi, je suis bordelais, je suis né à Bordeaux, mais je ne suis pas du tout tombé dans la barrique quand j'étais petit, parce qu'il n'y avait pas de vigne chez nous du tout. Et j'ai même mis un peu de temps avant de découvrir le vin, et pour tout vous avouer, c'est autour des années 89 où je suis rentré pour la première fois à Vinexpo, et en 89, j'étais quand même un peu grandé, j'allais avoir 27 ans. Et ça, ce fut une véritable découverte. J'ai fait mon collège à Saint-Genès, et à Saint-Genès, on m'avait fait faire ma confirmation, et là, on m'avait dit, tu verras, tu auras l'Esprit-Saint qui va te tomber dessus, enfin, quelque chose va arriver. Je ne sais pas si ça a bien marché, mais je peux vous dire qu'en 89, au sortir de Vinexpo, il y a véritablement quelque chose qui s'est passé, et j'ai toujours l'impression que ou Bacchus, ou Dionysos, ou Hébé, en tout cas un des trois, ou peut-être les trois à la fois, était tombé sur mes épaules et ne m'a plus jamais quitté. À partir de là, je me suis dit, en bon bordelais que je suis, Gilles, arrête de faire le couillon, il faut vraiment que tu t'y mettes, apprends à déguster, apprends ce que c'est que le vin, et je n'ai eu de cesse de vouloir me former, d'ouvrir des livres, de revenir chez moi l'en acheter, etc., etc. Et quand on veut se former, une des choses qui est intéressante, ce sont les clubs de dégustation. Mais quand on veut aller plus loin, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Alors on cherche, et inévitablement, on tombe sur ce DUAD, le diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation. Je me suis empressé de m'inscrire. J'ai attendu 2 ans de liste d'attente. Et au bout de 2 ans, j'ai pu faire le DUAD en 91-92. Et ce fut une véritable découverte. Alors ce DUAD, je l'ai obtenu, je suis très fier d'avoir obtenu, parce que c'est le seul diplôme pour lequel je suis arrivé avec zéro connaissance, avec zéro représentation, je n'y connaissais absolument rien. Je l'ai obtenu, puis je me suis dit, après l'avoir eu, il faut en faire quelque chose. Bon, il n'était pas question pour moi de quitter mon métier, qui est l'enseignement par ailleurs. Et c'était dans les années donc 92, 93, 94. Et moi, depuis 81, je faisais des émissions de radio. Et là est venue l'idée, tout de suite, de faire une émission de radio sur Bordeaux. Et je crois que c'était vraiment, mais c'est vrai, hein, la première émission entièrement consacrée au vin. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, mais vraiment en dehors de l'ordinaire. J'ai fait venir, comme ça, plusieurs personnalités du monde du vin, et j'ai trouvé ces gens fabuleux, et j'ai toujours, toujours pensé qu'il fallait garder une trace, au moins une trace écrite, de ces existences qui sont merveilleuses parfois, de ces gens qui viennent... non seulement de tous les gens qui viennent du vin, mais aussi qui n'y sont jamais entrés, qui vendent tout et qui achètent un château, il fallait garder cette trace. J'ai mis longtemps, il y a des déboires qui sont passés, etc. Enfin bon, bref, la chance a voulu que je rentre contre les éditions Elitis, et à qui j'ai proposé cette idée qui était récurrente chez moi, je vivais avec ça, et je disais, voilà, il faut garder une mémoire, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est parti comme ça. On a travaillé ainsi ensemble, avec cette idée toujours de commencer par la dégustation d'une bouteille qui est à la fois le fil conducteur de la collection et le fil conducteur du livre, puisque chaque début de chapitre commence par la dégustation d'une bouteille. Voilà comment est venue un petit peu l'idée de cette collection.
Et donc pourquoi, par rapport à ce titre, peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, rapidement, en concrétisant le livre, Denis Dubourdieu m'a dit, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un sous-titre. Et donc, apparaît rapidement l'idée de l'œnologie dans tous ses états. Alors, Denis Dubourdieu, qu'est-ce que ça veut dire, l'œnologie dans tous ses états?
Alors, vous m'aviez proposé l'œnologie. Alors, je trouvais que Denis Dubourdieu, l'œnologie, vous y alliez un peu fort. Je n'incarne pas l'œnologie. Mais l'œnologie dans tous ses états, j'ai allongé un peu le sous-titre, parce qu'effectivement, il y a trois états dans lesquels je pratique l'œnologie. Quand je suis professeur d'œnologie à l'université Bordeaux-Victor Segalen, à la faculté d'œnologie, donc où je suis depuis... 1982 ou 3 enseignants-chercheurs. Ça, c'est le premier état. Il y a l'état de praticien, praticien chez lui, en quelque sorte. C'est l'œnologie qui sert à faire le vin, en quelque sorte. C'est la livraison de la recherche ou des résultats de la recherche dans la pratique de la cave. Et du vignoble aussi. Et puis le troisième état, qui est venu plus tard dans ma vie, qui est venu quand j'avais à peu près une quarantaine d'années, c'est la vie de consultant, de conseiller, où on applique ce que l'on a trouvé, non seulement chez soi, mais chez les autres.
Et dans l'œnologie, vous parlez souvent, enfin intervient souvent une figure récurrente d'ailleurs, que vous n'êtes pas le seul à citer, Émile Peynot. Et on parle de lui comme d'un amer, d'un phare dans l'histoire de l'œnologie. Alors, quel rapport vous avez eu avec Émile Peynot?
Alors, des rapports, finalement, une espèce de filiation sans pratiquement de rencontre, puisque Émile Peynot sortait du jeu quand moi j'y rentrais. Il était déjà un vieux monsieur, ou que je considérais comme un vieux monsieur, et il avait fini sa vie universitaire. Il conservait une petite activité de consultant, essentiellement au Château Margaux, mais c'était, pour lui, c'était la fin, et pour moi, c'était le début. Et on s'est croisés, et je le connaissais un peu, évidemment, parce que je l'avais rencontré chez mon père, mais on se connaissait très mal. Et j'ai lu ses livres, mais ce n'est qu'assez tard que je me suis imprégné, au-delà de ses découvertes, des résultats de sa recherche, un peu de sa philosophie et de son éthique du vin, car c'était un homme tout à fait exceptionnel qui on peut dire a démystifié la transformation du raisin en vin, qui lorsqu'il a débuté sa vie était une suite de mystères, de bizarreries. Chaque année était était un, comment dirais-je, une espèce de tirage au sort, non seulement pour la qualité du raisin, mais surtout pour la transformation du raisin en vin. Et il a expliqué, à la suite de Pasteur et d'autres, mais enfin lui, il a véritablement posé des, en quelque sorte des projecteurs pour expliquer ce qui se passait. Et évidemment, quand on comprend l'intimité des phénomènes chimiques, des phénomènes biochimiques, des phénomènes métaboliques, microbiens, dans la transformation du raisin en vin, ben, quand on comprend ce qui se passe, eh bien, on est plus à même de le guider vers un objectif esthétique, un objectif gourmand. Et donc, Émile Peynot, finalement, ça a été l'une des rares personnes qui, dans mes prédécesseurs, hein, qui était à la fois un grand chercheur et en même temps un artiste de la vinification. Autrement dit, il développait une science au service d'un art. Et c'est ce que j'ai essayé également de faire à mon époque.
Et c'est ce qui est intéressant, cette immixtion de la science dans le vin, finalement. Est-ce que justement, depuis une trentaine d'années, depuis qu'Émile Peynot a disparu, est-ce que finalement l'œnologie a évolué tant que ça? Est-ce que la science dans le vin a fait changer les choses?
Ah oui, énormément. Dans bien des domaines. Hein. Mais on peut en citer quelques-uns, enfin, que j'évoque dans ce livre. Il y a la notion de défaut olfactif, hein, la pureté du vin, hein, l'équivalent un peu de la fausse note en musique, ou de la phrase alambiquée ou du contresens en littérature. Il y a beaucoup de vins, en réalité, qui en sont encore farcis. Hein. Mais autrefois, on ne pouvait pas faire autrement. La présence de ces défauts olfactifs était, en quelque sorte, purement aléatoire. Le fait de d'en avoir diagnostiqué les molécules responsables et les voies de formation qui peuvent être chimiques, qui peuvent être microbiennes, la présence de micro-organismes indésirables, le fait de comprendre ce qui se passe a permis de les éviter et donc de rendre le vin plus lumineux, plus évident en quelque sorte, et en même temps plus complexe. Car au fond, un défaut dans un vin, c'est pas seulement une odeur désagréable, c'est aussi un masque qui cache la complexité véritable du vin. On me demande souvent si un défaut est plus tolérable dans un grand vin ou dans un petit vin. Et je dis non, au fond, le défaut est intolérable dans un grand vin, parce qu'il vous prive d'un maximum de plaisir, et lequel, si on ne vous a pas offert la bouteille, vous avez quand même cotisé pour ce plaisir. Donc, si vous avez un défaut, alors ça peut être un défaut d'oxydation, c'est-à-dire c'est le vieillissement prématuré dont je parle dans ce livre, ça peut être un défaut de réduction aussi, l'inverse, c'est des odeurs un peu croupies, un peu animales, ça peut être des odeurs... la mère des mauvaises odeurs, en quelque sorte, dans le vin, c'est-à-dire toutes les odeurs vinaigrées, lactiques, etc. Ça peut être des odeurs découvertes plus récemment, d'ailleurs, dans mon laboratoire, qui sont les odeurs, ce qu'on appelle les odeurs phénolées, hein, qui évoquent un peu l'écurie, l'étable, la sueur du cheval, toutes odeurs agréables pour un cavalier, mais moins dans une bouteille de vin. Et à l'époque d'Émile Peynot, eh bien, ces odeurs-là, elles étaient subies. Il n'avait pas les moyens de diagnostiquer, de détecter, d'identifier les molécules responsables. Pour prendre un exemple, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai fait de la recherche sur les arômes, on dosait péniblement des composés odorants présents dans le vin à des teneurs de l'ordre du milligramme par litre. on a l'impression de faire une action d'éclat. Bon, et puis 10 ans plus tard, on a dosé des microgrammes par litre, donc le millième. Bon, et puis quand j'ai commencé, par exemple, à travailler sur les arômes du Sauvignon, hein, qui m'ont accaparé quand même un bout de temps, eh bien ces arômes-là, on pouvait pas les étudier avant parce que ils sont présents dans les vins à des teneurs de l'ordre du nanogramme par litre, c'est-à-dire le millième du microgramme lui-même, le millième du milligramme, donc le millionième du milligramme. Et donc les progrès de l'instrumentation, mais c'est la même chose dans d'autres domaines, en médecine ou autre, les progrès de l'instrumentation ont permis d'accéder à des composés extrêmement puissant, extrêmement odorant dans le vin, agréable ou désagréable, et ainsi d'influencer les méthodes de vinification pour que le vin soit toujours plus lumineux, en quelque sorte, comme un tableau bien nettoyé.
Donc on a codifié quelque part, il a codifié ce qui était nuisible, et est-ce qu'à l'inverse, on peut codifier des choses, enfin des éléments, des clés qui nous permettraient de dire ben voilà ce qu'il faut pour construire un grand vin.
Oui, absolument. On a fait les deux. Alors, on est plus fort. La recherche œnologique a été toujours plus forte pour, pour étudier le défaut que la qualité. Parce que le défaut est souvent lié à des molécules isolées. En fait, c'est comme dans vos relations avec les autres. Vous pouvez plus facilement expliquer ce que vous n'aimez pas chez eux que ce que vous aimez. Dans ce qu'on aime, il y a une dimension un peu confuse de complexité, et c'est bien à ce que finalement ce que vous aimez est inexplicable que vous êtes à peu près sûr que vous l'aimez. En revanche, le défaut, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà, ça peut être même obsessionnel, le reproche. Et donc, dans la recherche œnologique, on a été beaucoup plus fort pour diagnostiquer et prévenir des défauts qu'au fond expliquer la qualité. Alors on a expliqué des bouts de la qualité, des parties de la qualité, par exemple dans le cas des arômes de cépage, des arômes du bois, voilà, pour donner quelques exemples. Je cite un travail qui est fait aujourd'hui dans ce qui était mon laboratoire, parce que je n'en suis plus le patron de ce laboratoire, je ne suis que le patron de l'institut qui l'abrite. C'est un travail sur tout à fait nouveau, qui est fait par un jeune normalien, qui s'appelle Axel Marshall, que je cite dans ce livre, qui est un travail sur les molécules suaves, les molécules douces du vin, qui ne sont pas des sucres, ce qu'on appelle la sucrosité sans sucre. Eh bien ça, c'est le fin du fin dans un grand vin. Voilà, il est sec, il n'a pas de sucre résiduel, et néanmoins, vous y trouvez une espèce de confort, de suavité, de douceur, et donc ce jeune homme, fort brillant, j'espère qu'il fera un jour un grand professeur œnologie si les grands universitaires m'y aident. Il a identifié aujourd'hui dans le vin à peu près une dizaine de molécules qui n'avaient jamais été identifiées dans la nature ni dans un autre végétal et qui possèdent une saveur douce sans être des sucres. Alors là, c'est une partie du mystère qui est dévoilée.
Gilles, peut-être que tu as des choses à dire sur la sucrosité sans le sucre, juste en évoquant peut-être l'idée que, une idée toute simple, ou je me trompe peut-être, mais l'idée de la vanille, la vanille elle-même est assez, je pense, représentative de cette idée de sucrosité sans le sucre.
Alors,
cette saveur douce.
C'est une association. Enfin, c'est un peu une hallucination olfactive qu'on a déjouée d'ailleurs. La vanille est toujours associée dans notre alimentation. Enfin, depuis qu'on est allé dans ces îles. Est toujours associé à des mets sucrés, de sorte que quand on sent la vanille, on a une anticipation de la saveur sucrée qu'on va ressentir au goût, parce que la saveur douce est un goût, c'est pas une odeur. Donc l'odeur vanillée anticipe une sensation sucrée. Et d'ailleurs, si vous ne trouvez pas cette sensation sucrée, vous pouvez éprouver de l'amertume. Puisque l'amertume est une forme de déception. Et donc, l'amertume peut être quelquefois l'attente déçue du sucre. J'utilise ça, c'est comme ça que j'enseigne à mes élèves de la possibilité pour eux de trouver, j'en parle pas dans le livre, mais de toute petite dose de sucre dans une solution d'eau. C'est un test que l'on fait passer au DUAD. Donc, nos étudiants, ils sortent de ce diplôme avec leur carte de sensibilité à toutes les molécules connues du vin, et en particulier, évidemment, au sucre. Et donc, certains sont très sensibles à de petites doses de sucre, et d'autres, très peu sensibles. Alors, pour ceux qui sont très peu sensibles, ils viennent me voir et me disent « Monsieur, mais comment vous faites ? Comment on peut arriver à sentir toute petite dose de sucre ?» Alors, je dis « Écoutez, le sucre, c'est ce qu'on aime quand on est un bébé. Donc, une solution qui est à peine sucrée, vous la poussez un peu au fond de votre palais et vous oubliez, et à un moment donné, vous avez à avoir le réflexe de la déglutition est déclenché. Parce que ça, on est câblé, depuis tout petit, pour avaler des choses sucrées. Et au fond, si ça ne vient pas, il n'y en a pas de sucre. Et donc, ça les aide à trouver des petites doses de sucre, ou, évidemment, à diagnostiquer que la solution n'en contient pas. Voilà, enfin,
Ça aide naturellement à défendre le sauterne, vous l'aurez bien compris.
Alors, le sauterne, c'est autre chose. Le sauterne, le sauterne dont il est question dans ce livre, c'est un des nombreux paradoxes du vin. Au fond, ce qu'on recherche dans un grand vin, c'est, l'inverse en sensation de ce qu'on attendrait de son constituant principal. Pas être un peu compliqué, mais c'est très simple. Un vin blanc est acide, naturellement. On aime cette acidité, mais on ne doit pas ressentir cette acidité. On doit l'oublier. Bon, un vin rouge est tannique, donc il est par nature, de nature, il est astringent. Eh bien, le grand vin rouge, on ne doit pas percevoir cette astringence en tant que telle. C'est du tannin qui ne doit pas être astringent. Et pour finir la comparaison, les grands vins liquoreux, les grands vins de sauterne, de pourriture noble, qu'ils soient de sauterne ou de Tokaj ou de Barsac en l'occurrence, eh bien, ils contiennent des grandes quantités de sucre, puisque le raisin a été fort concentré par la pourriture noble, et néanmoins, quand on les déguste, eh bien, on ne doit pas être agressé par une sensation sirupeuse et collante et lourde, et les grands vins liquoreux, au fond, sont ceux dans lesquels on oublie le sucre qu'ils contiennent.
Donc Gilles, peut-être sur la sucrosité sans le sucre, et ensuite peut-être que tu peux nous détailler un peu la manière dont ces conversations se sont déroulées, et surtout, est-ce qu'elles ont aussi suscité d'autres rencontres ?
Alors, la sucrosité sans sucre, je n'en parlerai pas parce que c'est un peu un joke entre toi et moi. Bon, voilà, Denis Dubourdieu m'avait expliqué la sucrosité sans le sucre il y a un an et demi, deux ans. Enfin, Axel Marshall commençait un peu ses travaux et tout de suite, Denis Dubourdieu m'en a parlé. Et c'est vrai que comme toutes ces grandes choses que l'on perçoit mais qu'on vous révèle, vous dites, ben oui, c'est tout à fait ça. Et on était en train de faire un salon du livre avec Xavier Mouginet. Moi, chaque fois que je fais un salon du livre, bien évidemment, j'amène du vin à boire. Pas ce soir, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas m'empêcher de parler du vin, de présenter les bouteilles sans en avoir à déguster. Et j'avais justement un vin blanc à déguster. Et toutes les personnes qui venaient parler avec nous, je leur parlais de cette fameuse sucrosité sans le sucre. Et la formule, j'ai dû la répéter une cinquantaine de fois, tellement que j'étais tout content d'avoir appris ça de Denis Dubourdieu. Voilà pour le choc.
C'est quelque chose que je n'ai pas inventé, parce que je l'ai signalé dans le livre, au cours d'un déjeuner avec un de mes aînés de l'époque qui savait que j'aimais le vin blanc et il m'avait servi un déjeuner où on ne buvait que des grands bourgognes blancs et il m'avait dit je vous ai servi ces vins parce que vous êtes un amateur de blanc, mais moi je peux vous dire pourquoi, comment je définis un grand bourgogne blanc, et il m'a dit c'est de la confiture sans sucre, et donc c'est revenu bien des années plus tard et ça a constitué un sujet de recherche.
La deuxième question, c'était
voilà, sur la manière dont se sont déroulées les conversations. Et est-ce qu'elles ont induit, à l'image du livre que l'on avait fait avec Christine Vallette et Xavier Pariente à Trolon-Mondeau, lors d'une conversation, tu avais rencontré les époux Bourguignon, qui sont de grands scientifiques travaillant surtout sur le terroir.
Non, alors on n'a pas du tout procédé pareil avec Denis Dubourdieu. D'abord, Denis Dubourdieu, bien évidemment, il faisait partie du top 5, enfin du top 5 des gens que je désirais ardemment avoir dans cette collection. Mais Mettez-vous à ma place. Denis Bourdieu, c'était mon professeur. Il y avait cette espèce d'aura comme ça et je ne voulais pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie, par exemple, des quatre premiers. Je voulais d'abord un peu éroder un peu la collection, enfin la tester. Et j'étais très heureux qu'il accepte aussitôt après les quatre premiers cette aventure-là. Mais il fallait trouver la nouvelle approche. Il fallait trouver une autre approche que de cette conversation. Et je me suis dit, ça fait 20 ans que je l'avais eu en cours. Ça serait donc l'occasion peut-être de faire une révision. Et ce que je lui ai proposé, et c'est écrit dans le livre, il dit non, je ne vous propose pas une révision, je vous propose une actualisation. Ah oui, bien sûr, alors allons-y. Voilà comment est partie cette conversation, qui change un petit peu, c'est vrai, des sept autres. Voilà comment c'est parti. Et nous sommes retrouvés. Je me souviendrai toujours, notre première rencontre, c'était fin août 2009, dans cette formidable maison que possède M. et Mme Dubourdieu sur le bassin d'Arcachon. Nous avons commencé à déguster un Floridaine dans le salon, en fin d'après-midi. Nous sommes passés après à table dans le jardin, face à la mer, et nous avons poursuivi par un Rhénon. Et là, j'ai constaté que le soleil avait suivi un petit peu la courbe de notre dégustation. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, le soleil était éclatant, très très blanc, très très lumineux, comme le vin blanc que nous avons dégusté. Et au moment où M. Dubourdieu m'a servi le verre de Rhénon, j'ai fait comme ça et le soleil se couchait. C'est-à-dire que vin tout rouge, vin et soleil se mariaient ensemble. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose et ça va être bien. Et là, on a mis 2 ans et demi, mais j'aurais bien continué. D'ailleurs, il va falloir qu'on continue à faire un livre, on fasse un deuxième. Voilà comment
oui,
ça s'est passé.
Oui, parce qu'évidemment, il y a énormément de sujets qui sont abordés. D'ailleurs, on peut dire que dans l'ensemble de la collection, c'est celui qui est le plus foisonnant, le plus riche, le plus dense. On aborde l'œnologie, vous abordez la vinification, les domaines familiales, la dégustation, l'enseignement.
Je me suis lâché. Écoutez, voilà. Je pense qu'il fallait en profiter, Denis Dubourdieu. En tête à tête.
Et c'est tout l'intérêt, comme je disais en préambule, de faire un travail comme ça sur la durée, vraiment en profondeur.
Et alors, je peux vous dire qu'il a travaillé. Hein. Il a travaillé parce que nous avons fait une fois, je me souviens, un marathon de 5 heures d'enregistrement, entre autres. Et jamais je n'ai vu Denis Dubourdieu lassé. À chaque fois, j'étais avide de questions. Allez, on va peut-être passer à table ou on va peut-être arrêter. J'avais toujours une question et jamais il n'a montré le moindre énervement. On en finissait jamais. Il faut aussi dire qu'il a fait un énorme travail de relecture du texte. Et ça aussi, ça lui a... Bravo.
Oui, enfin là, merci. C'est une conversation quand même largement retravaillée pour qu'elle ait, qu'elle donne l'illusion d'une conversation fluide, mais elle a été, limée, rognée, reprise, et pour que le livre ne vous tombe pas des mains, tout simplement,
pour
que ce soit lisible, quoi.
Qu'il ne fasse pas le double de ça, parce qu'au départ, on était vraiment presque au triple, enfin, à 2,5 fois ça. Bon, voilà comment ça s'est passé.
Donc beaucoup de sujets abordés. Et par rapport à... au moment où je crois, de la 7e ou 6e conversation, tu as bénéficié d'un scoop, entre guillemets, puisque il y avait la révélation du passage des domaines de Denis Dubourdieu en conversion biologique, raisonnée. Et alors, est-ce que Denis Dubourdieu... en dire un mot. Est-ce que c'est lié ça à votre travail de chercheur ?
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'estime que aujourd'hui, le monde a changé. L'environnement est au cœur des préoccupations de toute activité humaine, même domestique. Et le vin et la viticulture est confronté à un problème qui est quand même grave, c'est que au fond cette plante Vitis vinifera, hein, qui était une espèce sauvage de la flore post-glaciaire, elle a été acclimatée par l'homme, qui l'a ramenée près de chez lui et puis l'a plantée pour faire du vin il y a quelques 6 ou 7 000 ans. entre la Géorgie et l'Arménie. Et puis ensuite, cette vigne sauvage s'est cultivée pour faire du vin tout autour de la Méditerranée, par le sud, etc. Elle est arrivée très tardivement d'ailleurs à l'ouest de la Méditerranée. Mais elle vivait dans une espèce de paradis terrestre, en fait. Elle était en équilibre avec son environnement. Elle n'avait pas d'agresseurs qui pouvaient compromettre ses récoltes, autre qu'une grande sécheresse, un grand vent, quelques criquets qui pouvaient dévaster le vignoble, mais elle n'avait pas d'ennemis qui en menaçaient la pérennité. Et puis, au XIXe siècle, évidemment, les maladies du continent américain auxquelles les espèces américaines sont résistantes, évidemment, ont conquis l'Ouest, l'Europe, et se sont acharnés sur cette plante, Vitis vinifera, et tous ses cépages, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vigne qui puisse être cultivée, et nulle part dans le monde, cette vigne européenne doit être cultivée en la protégeant contre les maladies, et en particulier contre les champignons. Alors, contre les insectes, contre le phylloxéra, etc., bon, on a trouvé une parade, entre guillemets, bio, qui est le greffage, puisqu'on a pris la vigne américaine, on s'en est servi comme porte-greffe, hein, et puis, on a fait cette association, en fait, entre un porte-greffe américain et une vigne européenne, alors qu'autrefois, la vigne européenne, elle était simplement bouturée, hein, dans le sol, c'était une viticulture, finalement, très, très facile, et là, ce paradis, il a fallu l'oublier, mais pour les champignons, au fond, le remède a été le traitement. Alors, le traitement avec des produits minéraux, le soufre et le cuivre au début, à des doses fortes d'ailleurs, qui sont pas innocentes, hein, malgré tout, pour les sols. Et puis, à partir des années 1950, tous les produits de synthèse issus de la pétrochimie, donc de la chimie organique, pour produire des fongicides, des insecticides extrêmement puissants, qui permettaient en toute légalité, en quelque sorte. Enfin, c'est comme les médicaments, si vous voulez. Bon, on pouvait les utiliser, ces produits. On peut toujours les utiliser. Mais à un moment donné, on a été obligé, on a pris conscience qu'il fallait non seulement réduire les doses, mais tourner une page et ne plus les utiliser le moins possible, ou ne plus les utiliser du tout. Donc ça renvoie évidemment à la viticulture face à son drame, en quelque sorte, qui est de résister aux maladies d'être placée en situation où elle est suffisamment résistante pour que de petites doses de fongicides minéraux soient suffisamment efficaces. Et je peux vous dire que ces jours-ci, avec le temps qu'il fait, c'est pas facile. Voilà. Et donc, j'ai décidé de tourner une page. Alors, ça a étonné beaucoup de gens, parce que, finalement, un agronome, en général, on se dit, ça aime un peu la phytopharmacie, et voilà, qui a sauvé la viticulture. Hein. Il faut pas jeter la pierre aux gens qui ont produit toutes ces spécialités, ni aux vignerons qui les ont utilisées. Bon, c'est pareil dans le médicament. Si on ne l'avait pas donné l'autorisation de l'utiliser, ils ne l'auraient pas utilisé. Donc, on leur a donné l'autorisation, ils l'ont utilisé. Aujourd'hui, l'environnement en est gavé, et il faut tourner la page. Mais on ne peut pas tourner la page simplement avec des incantations, des tisanes, etc. Il faut tourner la page avec la compréhension des phénomènes et avec des spécialités douces, entre guillemets. Voilà. Alors, il y a un exemple, d'ailleurs, qui sort de la recherche bordelaise. La vigne est attaquée par des petits papillons qui donnent des petits vers, qu'on appelle les vers de la grappe, qui vont manger les grains, les perforer, etc. Et donc, ces vers de la grappe, pendant longtemps, on les a combattus avec des produits. Alors, soit on les combattait pas et la récolte partait, soit on les a combattus avec tous les insecticides que la phytopharmacie a produits. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on les combattait avec la DDT. Bon, mon père était très fier d'utiliser la DDT, mais on s'est aperçu évidemment que la DDT c'était pas tenable. Donc on a interdit la DDT et ainsi de suite, jusqu'au jour où on a découvert que on pouvait se perdre un peu, disperser ces papillons en utilisant des phéromones qui sont les molécules volatiles émises par la femelle pour attirer le mâle. Donc on opère par confusion sexuelle. Donc tous les sept pieds de vigne, on met des petites capsules qui contiennent les phéromones de la femelle papillon et le mâle sent l'odeur de la femelle partout, mais tellement partout qu'il peut pas trouver où elle est. Alors il meurt ainsi, comment dirais-je, à la fois privé et enivré de l'odeur de sa fiancée, voilà, ou de ses fiancés. En tout cas, on n'utilise plus, on peut ne plus utiliser d'insecticides. C'est pour vous donner un exemple d'une solution entre guillemets douce, mais qui n'est pas, comment dirais-je, sortie d'une espèce de d'élucubration, mais d'une recherche extrêmement pointue.
Ça veut dire quand même que, en parlant de codification de ce qui est bon pour façonner de grands vins, on peut dire que l'agriculture biologique aujourd'hui, elle donne des réponses favorables à l'épanouissement de la vigne. Enfin, la question sous-jacente, c'est finalement...
Oui, elle est à construire. Elle est à construire. L'agriculture biologique actuelle n'est pas optimum. Elle est à construire, hein. Voilà. On ne pourra pas. Par exemple, je vous donne un exemple qui est l'exemple de l'utilisation du cuivre. Hein. Le cuivre, c'est un polluant des sols. C'est le seul fongicide autorisé par l'agriculture biologique. Un beau jour, il va falloir constater que on peut plus continuer à utiliser du cuivre parce que le cuivre, il s'accumule dans les sols. Hein, c'est pas des grandes quantités, mais enfin, on a chiffré ça, on a pu faire une thèse là récemment sur le sujet. Bon, il y a à peu près 300 tonnes de cuivre métal qui sont déposées chaque année sur les 100 000 hectares de vignes du vignoble bordelais. 300 tonnes. Bon. C'est pas biodégradable, hein. Voilà, on peut pas faire ça 100 ans de plus. Donc ça peut être bio, c'est pas parce que c'est bio que c'est nickel, si j'ose dire. Non, là c'est cuivré, là. Hein. Voilà. Donc il faudra trouver un remplaçant au cuivre. Alors dans un premier temps, on trouve des moyens d'en diminuer les doses. Je pense qu'on peut utiliser à peu près 10 fois moins que ce que pouvait utiliser mon grand-père. Mais même ces petites doses, à l'échelle de l'ancienneté de la viticulture, je vous dis, 7000 ans, 8000 ans, on ne peut pas apporter pendant 8000 ans de plus 300 tonnes de cuivre par an sur les 100 000 hectares de Bordeaux. Voilà.
Oui, et là, la question un petit peu sous-jacente par rapport à toute cette technicité, cette apparition, cette avancée grâce aux sciences et vous la faites aussi avancer en tant que chercheur, c'est finalement ce qu'on met en quatrième, ce qu'on disait en quatrième de couverture du livre, c'est est-ce qu'il y a encore beaucoup de mystères pour façonner les grands vins?
Ah oui, il y a un mystère absolu, c'est-à-dire que finalement, comment dirais-je, la beauté du vin n'est pas qualifiable en termes chimiques. Hein. On peut pas, on sait pas. Je vous prends un exemple tout bête. Hein. Je sais pas, bon, on prend un cépage illustrissime qui est le chardonnay. Les gens reconnaissent le chardonnay. Enfin, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils disent c'est un chardonnay, c'est toujours un chardonnay. Voilà, c'est un cépage dont l'odeur est connue. Il y a des chardonnays qui sentent pas le chardonnay, mais quand on croit que c'est un chardonnay, si on est un bon dégustateur, c'est toujours un chardonnay. Donc il y a un espace sensoriel qui est associé à ce cépage, qui est très complexe, et les molécules qui sont responsables de cette représentation ne sont pas connues. Elles le seront peut-être un jour. Je peux vous donner un autre exemple. On parlait des tanins suaves, des tanins qui ne sont pas tanniques, au fond, qui ne sont pas astringents. Ce qu'on appelle, nous, les bons tanins, par opposition aux tanins secs. Hein. Alors, si vous voulez, ça, c'est des représentations, parce que le tanin, il n'est ni sec ni humide, c'est une molécule. Quand on dit un tanin sec, ça signifie que votre flux salivaire s'interrompt en présence de ce tanin. Et donc, ça vous sèche la bouche. C'est pas le tanin qui est sec, c'est le tanin qui rend votre bouche sèche. Et alors les mécanismes neurologiques qui interrompent la sécrétion salivaire sont pas connus. On pourrait les étudier, mais ils sont pas connus. Mais surtout, les molécules, la nature des molécules qui provoquent cet effet ou qui ne provoquent pas cet effet ne sont pas connus non plus. Donc, alors je dis pas qu'on pourra étudier le vin 7000 ans, mais comme disait un économiste célèbre, à long terme, on sera tous morts. Donc, pas un problème.
Et en matière d'approche de grand vin, peut-être que Gilles, tu peux nous parler de l'extravagant, justement, qui a fait l'objet d'une dégustation à la fin, puisque c'était un peu le point d'orgue, j'ai l'impression, des conversations.
Ah oui, alors ça, je croyais avoir dégusté tout ce qui se faisait de mieux en matière de liquoreux, en particulier de vin de Sauternes. Et un jour, Denis Dubourdieu m'a fait découvrir l'extravagant. Je crois que j'en ai parlé à tout le monde pendant un mois. Je croisais quelqu'un, je dis, tu t'es déjà goûté de l'extravagant? Tu connais l'extravagant? Je trouvais que c'était quelque chose d'absolument fabuleux. J'ai tenu, mais enfin bon, ça, c'est d'un commun accord, à ce que d'ailleurs ça apparaisse en quatrième de couverture. Parce que si vous voulez ou si vous n'avez jamais connu ce que c'était que l'extase et la merveille en matière de vin, faites l'effort, procurez-vous une bouteille d'extravagant et ouvrez-la. Je n'en dirai pas
c'est
plus.
C'est une demi-bouteille. Hein. C'est une demi-bouteille.
Dans cet extravagant, vous avez tout. Vous avez tout au nez, vous avez tout en bouche. C'est une palette, c'est le paon qui déploie sa queue. Vous avez tout, absolument tout, tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut rechercher dans un vin, et dans un vin liquoreux en particulier. Voilà, on ne peut pas dire autre chose.
Merci d'être...
Moi, je voudrais juste terminer. Vous l'avez vu, Denis, il y a un S. Et avec ce livre, vous aurez 5 personnes en une. Hein. Vous aurez l'œnologue, le chercheur, l'enseignant, le vigneron et le consultant. Bonsoir.
Et merci à Denis Mollat de nous avoir accueillis. Merci.